Bonsoir tout le monde, je suis Sylvain Démenti, vous écoutez le Club Démenti, le podcast grâce auquel la vie est une surprise, est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Et parlant de surprises, j'ai une belle surprise, c'est Hello Kimi. Bonjour Kim.
Bonsoir.
Kim de la chaîne Hello Kimi, donc c'est ta première présence ici, je suis vraiment content. Oui. Ça fait quelques années qu'on se connaît, mais c'est quand même la première fois que tu es ici, je suis bien content de te recevoir.
Oui, il fallait que tu sortes de ta zone de confort dans les genres pour que je puisse me glisser dans un épisode.
Excellent, ben cool, je suis vraiment content que ça ait été le résultat. Et ensemble, on va discuter de « Et si l'amour s'était aimé », une BD de Fab Caro. Là, si je la montre, on ne voit plus ma face. Mais ce n'est pas grave parce que la plupart des gens vont nous écouter à l'audio. Voilà. Je devrais. Normalement, c'est le moment où je parle du synopsis. Alors, le synopsis, c'est l'histoire d'Henri et Sandrine qui forment un couple heureux et épanoui. Là, je vais juste lire la quatrième. Mais c'est donc Henri et Sandrine qui sont un couple heureux et épanoui. Et Sandrine, un jour, décide de commander de la Macédoine. Et là, tombe en amour avec le livreur de Macédoine qui s'appelle Michel, qui fait partie d'un band. Et éventuellement, elle va finir par tromper son mari avec le beau Michel. Je répète que ici c'est un club de lecture, donc on va divulgâcher à profusion. Mais honnêtement, je pense que tout ce qu'on pourrait divulgâcher, et ce qu'on va divulgâcher probablement, mais tout ce qu'on pourrait réellement divulgâcher, c'est des blagues. Parce que c'est vraiment une BD. Oui, ça s'appelle « Et si l'amour s'était aimé ». Ça parle d'amour beaucoup, ça parle du couple, mais c'est surtout une BD très absurde. C'est surtout vraiment de l'humour. Ouf! Et quel humour! Quel humour! D'ailleurs, Kim... d'humoriste, ou quand on regarde une comédie, ou quand on lit un livre humoristique, la question principale, au-delà de n'importe quelle autre qualité, est-ce que c'était drôle et est-ce que tu as ri?
Au début, non. Ça m'a pris un moment avant de saisir son humour. Au début, je trouvais que ça tombait flat, mais après, je me suis un peu habituée, puis j'ai noté les blagues que j'ai trouvées plus drôles que d'autres.
OK. Mais globalement, t'as aimé ton expérience?
Ben, autant de la lecture que l'humour, c'était moyen. Je dirais un 3 sur 5.
Ah, quand même, OK. Ouais.
OK, ben, si tu dis quand même, je dirais un généreux 3 sur 5.
Ben, je veux dire, c'est quand même comme plus que 50%.
Oui,
là,
oui.
OK, ben, au moins, ça a le mérite d'être court, hein, parce que moi, je l'avais lu jadis, je pense en 2019. C'est une collègue de la librairie où je travaillais à ce moment-là qui me l'avait fait découvrir. Puis après ça, je l'ai relu l'année dernière par pur plaisir. Puis là, je me suis dit, OK, je vais l'incorporer dans le podcast. Et je l'ai relu ce matin avant de partir travailler. Donc, ça se lit très vite, là.
Oui, je pense qu'il y a combien de pages? Les pages ne sont pas écrites.
Ils ne sont pas notées, ça m'énerve. Mais en même temps, c'est une BD, puis c'est une très petite BD. Donc, ça passe quand même assez vite. Je veux dire bonjour à Sonia Jean. Allô, j'ai trouvé ça cave en taille, j'ai full aimé. Par contre, j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Mmh. En fait, je vous dirais que c'est un peu pour ça que je l'ai relu ce matin. C'est qu'effectivement, c'est super drôle. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé ça super drôle. Je pense que j'ai trouvé ça encore plus drôle la troisième fois que la deuxième fois. Mais
parce qu'on sent plus, on sait plus à quoi s'attendre, on sait ça va être quel ton. Quand on commence, on ne sait pas nécessairement que ça va être drôle. Donc, c'est genre, ah, OK, ça, c'est une tentative de blague.
C'est surtout que je vous ai un petit peu joué un tour parce que je vous ai beaucoup parlé. Quand j'ai fait l'annonce de ce livre-là, je vous ai beaucoup parlé du mois de l'amour et tout ça. Puis je vous ai dit, allez-y, plongez là-dedans, les yeux fermés. Puis, c'est ça, sans nécessairement vous révéler que c'était de l'humour absurde, mais absurde, genre, le cœur a ses raisons et tranquille, là, en comparaison. Puis, Ben moi, le moment où j'ai comme compris, c'est vraiment à la page 1, c'est vraiment avec la phrase que j'ai utilisée pour décrire le podcast. Je l'ai un peu copié, je l'ai beaucoup copié. Son mari arrive, puis il parle d'un truc, il y a quelqu'un au bureau qui a mis du poivre dans sa paille-là. Puis là, elle est esclave, elle dit « Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour.
Mm. »
Ça rejoint mon funny bone. Ça tickle mon funny bone. c'est le genre d'humour que j'aime bien. Donc, c'est très absurde, comme je le disais. Moi, je vais y aller tout de suite avec ma blague préférée, celle qui me tue à chaque fois. C'est ce que là, notre Michel, qui est dans un band, il s'obstine un peu avec les autres gars du band parce que là, il commence à avoir une fille, puis là, il se fait accuser. Le gars, il dit « Hey, t'es plus le même, là, tu prends des douches à tous les jours. » Puis là, il le frappe, et là, plus tard, il dit la phrase succulente « Je me douche pas, je mets du déo. » Ça, ça m'a tué, ça me tue à chaque fois.
Oui, elle était bonne.
Est-ce que tu as relevé quelques bons moments comme ça?
Dans les blagues, quand ils essayaient de trouver une façon de se venger, ils ont dit quelques trucs, là, je me souviens plus c'est quoi, mais il y a une petite énumération. Puis après, il a dit, « Oh non, je sais, on l'abonne à France Loisirs pour qu'il reçoive un livre par mois. » Ça, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai relié à Québec Loisirs, puis le côté
personnel de recevoir des choses.
Non, mais le côté, je vais pas parler contre la compagnie, mais côté tu reçois des choses par la poste que tu n'as pas demandé.
Ouais.
Je trouve ça drôle que ça fasse partie des idées qui lui soient venues. Puis l'autre blague que j'avais aimée, c'est, je pense qu'à un moment donné, il y a un truc de speed dating. Puis là, il va avoir, je me souviens plus c'est quel personnage, mais il va rencontrer une personne qui lui dit « J'aime que les livres de ma bibliothèque soient classés par ordre chronologique de date de naissance de la mère de l'auteur, sinon je me mets en boule sur le carrelage et je sanglote bruyamment en pensant à la mort. » Je trouve ça extrêmement pointu, précis. Ça, j'ai trouvé ça drôle.
Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû penser à toi avec cette blague-là. Mais en fait, juste pour fermer la parenthèse sur Québec Loisirs, il n'y a aucun beef. Non seulement j'ai déjà travaillé là, j'ai eu une excellente expérience, mais en plus, ils n'envoient plus rien par la poste. Donc voilà, ceci étant dit, on va rétablir l'ordre avant de poursuivre. Mais donc, c'est ça. Puis là, je me suis dit, c'est un peu un piège là, de parler de cette BD-là. De prévoir un épisode d'un podcast sur cette BD-là parce qu'on n'aura pas nécessairement grand-chose à dire. Là, c'est une petite BD, on a trouvé ça drôle ou on n'a pas trouvé ça drôle, puis c'est pas mal tout ça. Mais on a quand même quelques sujets, on a quand même relevé quelque chose, et particulièrement toi. Là. Alors, honnêtement, je te laisse le bâton de la parole. Vas-y, je sais que tu as pris des notes parce que tu me l'as dit premièrement, mais aussi parce que tu es ce genre de personne-là. Donc, vas-y, je t'écoute.
Bien, je vais commencer avec la première chose que j'ai écrite à la page 1. C'était une citation. « Je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le concept de couple et de vie à deux. » Là, j'ai bien aimé ça, puis ça m'a fait réfléchir, ce qui est bien pour la page 1.
Mm-hmm.
Puis j'ai regardé, ça a été publié en 2017. Puis, ça m'a fait penser à une de mes lectures de Terry Jenkins Reid qui était After I Do. Puis, il parlait beaucoup, c'est l'histoire d'un couple vite, qui sont mariés, puis là, qui vont passer un an séparés parce que ça va plus bien dans leur couple. Puis là, elle va se rapprocher plus de sa famille. Puis, il y a sa sœur au personnage principal qui va vraiment dire, tu sais, moi, je veux être tout seul. Arrêter d'essayer de me trouver, de me matcher avec quelqu'un, un homme, une femme. Je veux juste être tout seul. Je suis bien dans mon mode de vie. Fait que ça m'a comme fait penser à est-ce que le concept de vie à deux, c'est-tu vraiment ce qui est meilleur ou pas? Fait que là, je me suis posé la question, moi, qu'est-ce que j'en pensais? Puis, je trouvais que c'était ça, c'était plus une vision moderne en 2024 de lire ça puis de dire est-ce qu'on, oui, on peut très bien vivre tout seul? Mais est-ce que... Ben, moi, je pense que ça dépend de la personne. Ça dépend de tes ambitions, style de vie que tu veux, de ton tempérament aussi.
Mm-hmm. Ouais, ben moi, jusqu'à récemment, là, je le dis, ça fait 9 ans, presque 10 ans que... Non, 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis célibataire. Et moi, honnêtement, je suis bien dans mes choses, je suis bien chez moi, je suis bien avec l'horaire, le manque de structure, en fait, le manque d'horaire que je me fais. Je suis bien avec mes trucs et tout ça. Est-ce que je voudrais être en couple? En fait, j'y suis venu et reparti à cette idée-là. Je me suis dit, tu sais, je suis bien par moi-même. Puis, tu sais, je traite mes relations amicales comme mes relations amoureuses, dans le sens que, tu sais, ce sont des personnes qui sont importantes pour moi. Puis, mes amis, j'entends, c'est des personnes qui sont importantes pour moi. Et, non, on n'a pas de sexe, mais je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'ai nécessairement besoin. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Donc, mais là, en même temps, tu sais, c'est ça. Des fois, il se passe des choses... on rencontre une personne mignonne, puis on se dit « Ah, ben peut-être que ça serait le fun d'être en couple des fois, c'est sûr. Mm. » Mais je pense aussi que quand tu es en couple depuis longtemps, il y a aussi des moments où tu te dis « Hey, il me semble que ça serait le fun d'être seul des fois, tu sais, avoir des petits breaks. Mm. » Je pense que peu importe la situation dans laquelle on est, on va penser à l'autre côté, tu sais.
On veut toujours ce qu'on n'a pas.
Ben, c'est un peu ça, là. Moi, je trouve ça bien plate d'avoir les cheveux raides. J'aimerais ça avoir des beaux cheveux bouclés, mais les gens qui ont des cheveux bouclés, ils aiment bien ça, les peigner. Fait qu'ils aimeraient ça avoir des cheveux raides, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on n'a jamais, ce qu'on veut.
Mm, exactement. Ouais. Puis je me suis questionnée aussi, justement, à propos de ça. Je pense que la majorité, quand même, des gens sont en couple. Fait que je me suis questionnée pourquoi on choisit le couple. Là, je me suis dit, ça doit être pour le côté... équipe, faire les choses ensemble, bâtir des projets communs.
Ben honnêtement, en 2024, c'est être capable de payer un loyer, là.
Aussi.
Je pense que c'est ça, beaucoup, là.
Et l'épicerie, ouais.
L'épicerie, tu sais. Mm. Ben, c'est sûr qu'il y a un aspect pratique à la chose.
Là. Oui. Oui.
Mm. Mais je veux dire, évidemment, c'est bien plus que ça, là. C'est aussi avoir... la chance d'avoir de l'affection physique, mm-hmm. et partager sa vie avec quelqu'un. Mm-hmm. Voilà.
Mm. Fait que c'est ça, c'est mon premier sujet qui m'avait fait réfléchir, fait que ça m'avait arrêté pour... Déjà, à page 1, il y avait une joke que je n'avais pas ri, puis après, il y avait cette réflexion-là. Je suis dit, OK, on va continuer à la page 2.
C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, j'ai bien hâte de voir... Quel sujet tu vas nous amener à partir de la page où il y a plein d'animaux qui fourrent?
Ah, celui-là, je me suis dit, c'était le côté pas... Puis là, je m'en souviens pas beaucoup parce que je l'ai lu en janvier, donc ça fait vraiment longtemps. Mais ça, je voyais ça comme si c'était un documentaire, puis tu avais des images superposées qui apparaissaient pour démontrer ou amener l'ambiance, ou mettre la table. Ou...
En fait, c'est que c'est la première date de Michel et Sandrine. Et ils vont au zoo, ils décident d'aller au zoo. Puis là, comme par hasard, tous les animaux sont en train de peser tout le temps. Puis moi, ça me faisait beaucoup penser au cœur à ses raisons et aussi à l'agent fait la farce. Là. Tu sais, c'est bien comme il dit là. Où il se passe, tu sais, il y a des blagues dans le dialogue. Puis il y a comme... des gags visuels qui se passent derrière. Mm-hmm. Donc, ouais. Mais bon, bref, je voulais pas t'interrompre dans ta lancée. C'est juste que cette page-là est quand même assez rigolote. Là.
Oui, oui. Puis moi, je trouvais aussi que ça l'amenait le lecteur un peu d'avance. Ça s'en va vers là ou peut-être que ça convainquait les personnages de... Ou des fois, tu vois qu'est-ce que tu veux voir. Fait que là, il voit
juste ça!
Ça leur donne envie, je sais pas.
Ils sont tellement chauds l'un pour l'autre qu'ils voient que ça.
C'est ça. Peut-être que c'est dans leur tête, on sait pas.
Ça se pourrait. Okay. Il y a beaucoup de bestialité, en fait, parce qu'il y a aussi une scène où le gars reçoit une mauvaise nouvelle. En fait, il y a une conversation sérieuse sur le fait que le mari a reçu la preuve que sa femme le trompe. Puis elle discute de ça à son, avec son amant alors qu'il est déguisé en lapin souriant. Mm. Pour aucune raison, mais c'est savoureux. C'est savoureux.
Mm. Ok, mais ça. Sinon, la page 3, déjà, il y a une autre citation. La fidélité est si importante au fond. Puis ce que j'avais aimé, c'est qu'elle ne demande pas à quoi ça sert. Elle sait à quoi ça sert. Elle questionnait plutôt la pertinence. Mmh. La fidélité, est-ce que c'est important? Parce qu'on sait à quoi ça sert. Ça sert à assurer la confiance, puis à rassurer, c'est ça, les deux personnes, à renforcer leur engagement, que c'est une relation exclusive, tout ça. Fait que c'est pas ça qu'elle questionnait. Elle se demandait plutôt, est-ce que c'est si important dans un couple? Fait que je trouvais ça assez moderne comme réflexion.
Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça intéressant, les conclusions que tu en tires, parce que tu dis, ben, on sait à quoi ça sert à renforcer la confiance et tout ça. Mais moi, ça m'amène à poser la question, est-ce que la fidélité, c'est pour les insécures?
Je vais relire la phrase.
Non, mais je veux dire.
Ben, dans le sens je pense que c'est important pour les deux personnes. C'est eux qui ont à décider. Parce que c'est ça, en 2024, je pense qu'il y a tellement de couples qui sont de plus en plus ouverts sur les couples.
Toutes sortes de ouverts. Formes de couples.
C'est ça.
Toutes sortes
de formes. Puis tout ça. Puis je pense que c'est à la hauteur de ce que les deux personnes sont à l'aise, là, selon ce qu'ils se sont entendus. Seul, puis au début, mais aussi tout au long de la relation. Là, si après 10 ans, tu te dis « j'aimerais ça explorer », puis l'autre aussi, « on essaie-tu ». Si les deux sont à l'aise là-dedans, même si au début, c'était pas ça, l'arrangement, si les deux évoluent, puis... Parce que c'est ça, je pense, le plus difficile dans un couple long terme, c'est d'évoluer à chaque jour. Fait que c'est d'évoluer dans la même direction. Fait que si la fidélité, tu te rends compte que c'est plus si important... Ben, si vous êtes tous les deux dans la même direction, il n'y aura pas de cassure. Vous allez aller dans le même chemin, dans le fond.
Oui. Mais je trouve ça intéressant. En fait, je trouve ça intéressant comme concept. En fait, tantôt, tu as parlé d'un livre de Taylor Jenkins Reid. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que je pensais que tu allais parler d'un autre livre d'elle.
Laquelle?
One True Loves. Qui est comme une fille, justement, qui se retrouve comme vraiment, sincèrement amoureuse de deux hommes en même temps. Mais malheureusement, j'ai pas lu ni l'autre. Mais c'est ça, donc, cette espèce de débat-là, est-ce que c'est possible d'aimer plus qu'une personne? Est-ce que, ben là, c'est un peu moins de... Ça cadre un peu moins avec la BD dans le sens que...
C'est plus profond.
Elle s'ennuie, puis elle s'en va voir ailleurs. J'ai plus l'impression que c'est comme ça. Puis, spoiler, elle finit par s'ennuyer avec son amant, puis elle se commande des betteraves en cube, supposant qu'elle va se trouver un nouvel amant. Mais elle va tromper la Macédoine. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu moins collé sur la réalité de la BD. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je me demande, est-ce que c'est possible? Ben, je suis de ceux qui pensent que c'est possible. En fait, moi, si je peux me permettre de m'ouvrir et de parler de mes propres sentiments sur la chose, c'est que, ben moi, personnellement, ben premièrement, pour enrober la question du sexe, moi, le sexe, c'est pas nécessairement quelque chose qui est comme... très important dans ma vie, ce n'est pas. C'est le fun quand il y en a. Je veux dire, je ne suis pas asexuel, c'est le fun quand il y en a, mais tu sais, je ne suis pas obsédé par ça non plus. Mais c'est peut-être parce que je suis neurodivergent, je dis tout le temps ça parce que c'est copié de l'anglais, mais neuroatypique, je devrais dire en français, c'est peut-être à cause de ça, mais moi, je n'associe pas le sexe à un sentiment dans le sens que je vais être grossier, je m'excuse, mais le pénis de mon conjoint dans la bouche de quelqu'un d'autre ne fait pas en sorte que j'aime moins mon conjoint. Tu sais, c'est pas la mécanique qui va me faire moins aimer. Ben, dissocier, mais en même temps, tu sais, dans le couple, ça fait partie de l'amour et des sentiments et tout ça, mais dans le sens que, tu sais, je vais pas moins aimer mon conjoint parce qu'il y a eu du sexe ailleurs. La raison pour laquelle je l'aimerais moins ou la raison pour laquelle je ne serais pas bien, c'est si j'ai l'impression qu'il y a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Si on commence à moins se voir, si on s'éloigne, si on, tu sais, ça m'inquiéterait. Ça, c'est quelque chose avec lequel je serais pas bien. Mais la mécanique du sexe, je l'associe pas aux sentiments. Donc, c'est ça. En même temps, c'est ça. Je sais que c'est pas ça pour la majorité des gens. Mais.
Je pense qu'on a. Ça me fait réfléchir à ce que tu dis. Puis je pense qu'on a chacun nos. Mettons, dans une relation de couple, on cherche plusieurs choses. Je vais mettre ici pour qu'on le voit. On cherche plusieurs choses. Puis, je pense qu'il y a un ordre de priorité différent pour chaque personne. Parce qu'il y en a des personnes que il y a juste embrassé une autre personne, puis c'est aussi grave. Mettons, ça, ce serait le côté physique, tu sais, il serait très haut placé. Il y en a d'autres comme toi, mettons, qui dit moi, le côté affectif, il y a plus d'importance. Fait que si tu me trompes avec les sentiments, ça a plus d'impact que si tu me trompes physiquement. Puis j'imagine qu'il y a d'autres couches comme les valeurs, le rythme de vie, tout ça. Puis ce que je veux dire, par exemple, c'est deux personnes peuvent être vraiment différentes, mais si c'est pas dans leurs valeurs haut placées qu'il faut que j'aime les mêmes affaires, il faut qu'on soit toujours ensemble, tout ça, si c'est bas, ben ça va fonctionner. Versus tout ça. Je pense qu'on a des niveaux différents de ce qui est important pour nous, ce qui est un deal breaker pour nous ou pas.
C'est vrai. Puis pour revenir à ce que tu disais, toutes ces choses-là qu'on met au clair au début de la relation peut évoluer, ça peut changer, on peut décider, on peut se sentir autrement, on peut. Tu sais, donc, moi, je trouve que c'est quasiment. Pire, quoique j'ai pas été. Moi, j'ai été célibataire la majorité de ma vie. Là. J'ai pas été en couple très souvent et quand je l'ai été, c'était pas très longtemps. Mais j'imagine que c'est beaucoup plus difficile d'arriver vers un conjoint établi et de dire hey, j'aimerais ça essayer autre chose. Tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile que si. C'est d'emblée ce qu'on établit au début de la relation, tu sais. Penses-tu? Toi qui es en relation...
J'ai fait une passe tantôt, mais c'est pas parce que t'as pas été en couple longtemps, c'est que je me disais, moi, c'est l'inverse.
Oui, c'est ça.
Mais ce que tu veux dire, c'est que plus que t'es vieux dans ta vie, donc plus établi dans ce que tu sais...
Dans ta relation.
OK, dans ta relation.
Oui, parce que, tu sais, genre, si, mettons, tu rencontres quelqu'un demain, tu dis, ah, ben, moi, je cherche un couple ouvert, je veux ci, je veux ça, puis, tu sais, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, puis si ça fonctionne, ben, on part là-dessus. Versus quelqu'un qui...
Il y a une crise de la quarantaine.
Tu sais, sont en couple depuis un moment, puis là, ben, c'est un peu dire à l'autre, tu me satisfais pas. Plus ou, tu sais, ou je tiens à toi, mais j'ai envie d'expérimenter. Tu sais, c'est vraiment touché. Ça doit être vraiment pire, je trouve, comme discussion.
Oui.
Ouais.
Je pense que oui aussi. Aussi, je pense que c'est une question, tu aimes la personne comme tu la vois là, ça doit être difficile de dire qu'elle change. Techniquement, tu l'aimes plus, tu aimais la personne que vous étiez au début de la relation, peut-être.
Ouais.
Mais oui, c'est sûr, ça doit être plus difficile de changer le paramètre du départ, si on
veut. Ouais, c'est ça.
J'ai entendu.
Mm-hmm.
Mm. Oui, sûrement.
Enfin, mais ni toi ni moi, on est dans cette situation. Donc, on reviendra en reparler si on le vit. Non, ou pas. Mais ben...
fait que c'est ça pour la question. À quoi ça sert la fidélité, on le sait. Mais est-ce que c'est si important? Je pense que c'est aux deux personnes dans le couple de décider l'importance qu'ils y accordent.
Ils y accordent. Mais ultimement, moi, je te dirais que, en fait, je dis ceci, puis peut-être que je me répète, là, je m'excuse, mais je dis ceci, le mot fidélité ou la fidélité du sexe, dans le sens que... moi, les relations que j'ai eues dans le passé, on était fidèles dans le sens que moi, j'accepterais pas C'est juste le sens du mot fidélité qui est peut-être différent, parce que moi, je n'aurais pas accepté qu'ils me disent « Ah, j'étais allé souper chez ma mère, mais finalement, il était avec un autre gars, puis t'sais, je l'apprends parce que je parle de la soirée. » Tu sais, genre, pour moi, ça, ce serait une infidélité parce que c'est en dehors de certains paramètres. Mais bon, bref, excuse-moi, je reviens, je tourne autour, mais c'est ça.
Ben, ça veut dire que la fidélité a différentes
définitions,
significations selon les personnes. Personne, ça va être... moi, il peut aller chez qui veut, puis c'est pas grave, mais tant qu'ils ne couchent pas ensemble. L'autre, ça va être un baiser, c'est grave. L'autre, ça va être une relation complète par message texte à quelqu'un des États-Unis, mais on ne s'est jamais vu en personne tout ça, mais tu y parles à tous les jours plus que moi. Ça peut être plein de visages, je pense.
C'est vrai, tu as bien raison. Oui. J'ai-tu la face de quelqu'un qui a des souvenirs, des traumas qui viennent de... Oui, c'est ça. Non, mais une soirée passée sur des chats, là, ouais, je me souviens de ça. Bref, oui, point suivant.
À moi,
tu as autre chose à rajouter.
Ben, le suivant était quand même relié à la fidélité. Je commence toujours avec une citation, puis après, j'écris qu'est-ce que j'en ai pensé. Là, j'ai pas écrit la page parce que les pages n'étaient pas écrites. Elle veut le beurre et l'argent du beurre, c'est là. Madame veut le confort du couple, mais quand même sa petite dose d'adrénaline. Puis je pense que c'est vrai parce que c'est pas mal. Ben, dans ce cas-ci, c'était la madame puisque c'est elle qui a trompé. Mm-hmm. Mais dans toutes les histoires d'infidélité, il doit y avoir un peu ça. Tu veux pas couper. Tu sais, j'ai l'image en tête du cliché de l'homme marié qui dit à sa maîtresse oui, oui, je vais la laisser, mais. Ça dure des années, des mois puis des années, puis après, finalement, il le fait pas, mais il veut garder les deux.
Oui, oui, oui.
Puis jouer sur les deux tableaux.
Oui, oui, on a vu ça fréquemment, ce schéma-là, puis c'est ça, c'est vrai, puis c'est plate, parce que de cette façon-là, cet homme-là, pour prendre ton exemple, cet homme-là est infidèle avec sa femme, et avec sa maîtresse, parce qu'il lui promet des choses qu'il ne lui donnera pas, tu sais.
Oui.
Donc, c'est vraiment pas une situation. Je me dis, si tout le monde était honnête, d'abord avec eux-mêmes, parce que je pense aussi que ce principe, cette forme-là de couple, que c'est deux personnes, c'est seulement deux personnes, puis il n'y a personne d'autre qui rentre dans ce moule-là, dans ce duo-là, je pense sincèrement que ça découle d'une certaine pression sociale, jadis due à la religion, principalement, parce qu'il fallait que deux personnes se marient, soient fidèles, fassent des enfants ensemble pour avoir plus de membres dans notre culte. C'est pas mal ça. Puis, ceci étant dit, je dis pas que les gens ne voudraient pas être en couple à deux si ce n'était pas de la religion catholique ou si ce n'était pas de la pression sociale. Il y a des gens pour qui ce serait, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus de gens qui seraient polyamoureux ou qui seraient ouverts à l'idée s'il n'y avait pas eu cette espèce de modèle qui avait été imposé sur nous. Et je pense que si on commençait premièrement par être honnête avec nous-mêmes et ensuite être honnête avec les gens autour, dire ce que l'on souhaite, ce que l'on pense. En fait, si on pouvait avoir le genre de conversation qu'on a en ce moment, là, de dire « ben moi, je vois les choses comme ça, puis toi, tu vois les choses comme ça. Est-ce que nos visions du couple peuvent fonctionner? » Ou notre vision de l'amour, là, parce que ça peut être plus que juste deux, plus qu'un couple. Mais c'est ça, c'est si on se disait, bon, est-ce que ça peut concorder ensemble? Je pense qu'on se sauverait énormément de peine et je pense que nos téléromans seraient bien plates parce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intrigues sur les infidélités.
C'est vrai. Ouais. Ah, t'as dit quelque chose, je voulais rebondir là-dessus. Le cadre.
J'ai parlé de religion, de moule.
Ben, je pense que j'étais juste d'accord avec tout ce que tu disais. Là.
S'il y avait d'autres choses, ça te revient.
Oui.
Je le prends. Je le prends quand ça arrive.
Ben, ma réflexion que j'avais dit sur la citation, je suis d'accord avec le choix obligatoire. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne me souviens plus de mes notes. D'accord avec le choix obligatoire, tôt ou tard. Ah oui, de choisir là, que tu veux bien avoir le beurre, l'argent ou du beurre, mais ça dure un moment, puis ça peut durer parce que tu le gardes secret. Donc, il va avoir le choix obligatoire de choisir ton camp, tôt ou tard. Sinon, tu veux un mensonge et tu niaises quelqu'un que tu es censé aimer, dans les deux cas, quelque part. Mm-hmm. C'est ça qu'on voit dans la relation. Puis, à la fin, comme tu as dit, elle n'est même pas encore satisfaite. Elle veut son prochain thrill, sa prochaine dose d'adrénaline.
Mm-hmm.
Fait que...
J'avais lu quelqu'un, je pense que c'était Elizabeth Gilbert, que tu as lu aussi, mais je ne sais pas si on a lu le même livre. Elle parlait de... Il me semble que c'était elle, puis si ce n'est pas elle, je m'excuse, mais il me semble qu'elle parlait du thrill, de la séduction. Elle aimait ça comme être dans la partie séduction. C'était même pas le sexe, c'était même pas... Et la relation de couple, les débuts passionnés là, d'un couple, c'était même pas ça, c'était même avant ça, elle, son trip, c'était la séduction, le « où est-ce que je lui plais, est-ce qu'elle me plaît, est-ce que tu sais. »
Ben, je le comprends. Moi, quand je lis des romans, c'est ça que j'aime, c'est le début, quand c'est « will they, won't they », puis les phrases, puis le « ah, oh, je vais le laisser, les petites règles, là, je vais le laisser mariner », puis tout ça. C'est pas quand t'es installé, puis je trouve que dans les nouveautés que j'ai vues, surtout québécoises cette année, contemporaines, il y a beaucoup de « c'est un couple, ils ne savent plus quoi faire, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis ils se tangent, puis tout ça. » Puis ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on montre les débuts, puis après, dès qu'ils sont ensemble, c'est plus intéressant, fait que l'histoire arrête.
Ah, oui!
C'est ça que j'aime beaucoup aussi, de voir de lire des romances ou voir des films romantiques, c'est le début, comment ils sont... Qui était avant, puis ils ont l'air de quoi ensemble. Fait que ça, c'est... Je m'identifie à ce que Elizabeth Gilbert dit.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est drôle parce que je me suis dit, hey, c'est un bon miroir. Le type de romance qu'on aime, c'est un bon miroir de nous, tu sais. Parce que là, pendant que tu parlais, moi, je pensais, oui, mais moi, c'est quoi le genre? Qu'est-ce que j'aime dans les livres de romance? Tu sais, parce que j'en lis quand même pas mal à l'occasion. Puis, moi, j'aime deux choses. J'aime le sexe bien hot. Je sais, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit plus tôt. J'ai dit que c'était pas important, mais j'ai pas dit que j'aimais pas ça. Mais c'est ça. Tu sais, quand les scènes stimiques passionnées. Et la gentillesse, moi, j'aime bien... Moi le enemies to lovers, si le gars, c'est un trou de cul avec, là, moi, tomber en amour malgré le fait qu'il est un trou de cul, là, moi, ça marche pas avec moi. Moi, j'aime ça, là, quand le gars ou la personne, le love interest, peu importe son genre, est gentil, il y a des attentions, il y a des bons moments, tu sais, il y a comme... C'est ça. J'aime la douceur et la gentillesse et le sexe qui est pas nécessairement doux ni gentil. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est tout le contraire. C'est pas le début, moi, que j'aime. Là. C'est pas le début quand ils se rencontrent, puis là, c'est long, puis tout ça. Moi, c'est vraiment comme, quand ils sont en couple, à partir du moment où ils sont en couple, comme jusqu'à la fin, quoique je déteste le third act break-up. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est drôle parce que là, je t'écoutais, comme je te disais, puis là, je me demandais qu'est-ce que j'aime des romances, puis je me suis rendu compte que très souvent, j'ai dit, un peu à la blague, mais en le pensant, me semble que j'aimerais ça comme être en couple avec un gars. Tu sais, genre, je rencontre un gars, on se plaît, OK, on est en couple. Puis tu sais, si jamais ça marche pas, ben c'est correct. Mais tu sais, le niaisage du début, là, il m'aime-tu pas? J'ai été dans une drôle de position récemment où, tu sais, j'étais comme en présence d'une personne qui m'intéressait, puis je me sentais comme un adolescent de 15 ans. J'étais comme, Sylvain, t'as 40 ans, là, puis t'es comme, ah, mais là, je veux pas y parler, je suis gêné. Voyons, là, réveille, tu sais, ça m'énerve bien gros. T'sais, les incertitudes, ça m'énerve. Mm. Fait que, c'est ça. Puis c'est drôle parce que c'est un peu, ça se reflète un peu dans ce que j'aime des romances. Puis toi, à l'inverse, tu dis comme, ben non, moi, c'est le début, là. Romance slow burn.
ben, pas trop slow, moi aussi, j'aime pas ça quand slow. Ça niaise pas trop. Mm-hmm. Sauf si c'est entendu, les deux, ils savent qu'est-ce qu'ils font, les deux, ils savent qu'ils sont conscients qu'ils jouent une game, tout ça. Mais je pense qu'une des raisons pourquoi j'aime le début, c'est à cause de ce que tu as mentionné, là, la partie séduction. C'est aussi peut-être ça qui est perdu dans certaines relations long terme. C'est le côté, tu vas pas prendre la peine de dire quand tu le trouves cute ou faire l'effort aussi de t'habiller. T'es comme, ah, il me voit en mou à chaque samedi matin. Faut que je vais pas me mettre. Tu sais, le côté, tu fais plus d'effort. Puis, ce qui est le fun des débuts de relation, c'est que là, tu vas te chercher, tu vas te casser la tête pour plaire, pour te mettre ton meilleur. Puis toi, tu te sens bien aussi comment tu te présentes. Tu es comme, je suis à mon meilleur. Puis, j'ai quelque chose à offrir. Fait que c'est ce côté-là, je pense, que je trouve intéressant. Puis que les gens aiment de la séduction. Ça fait du bien, c'est flatteur. Puis, c'est ça, tu te montres ton meilleur jour, puis ça te force à être ton meilleur jour. J'ai un de mes amis aussi qui, ça fait longtemps qu'il est célibataire, puis il a dit, avant de me chercher une relation, moi, je vais aller au gym, je vais manger bien, puis tout ça, parce que si je cherche, je décris une certaine personne que je veux, ben c'est juste qu'en échange, je fasse les efforts pour être la meilleure version de moi-même, si je veux la meilleure version de quelqu'un d'autre. Je trouve ça bien inspirant.
Waouh, oui, c'est drôle. Puis, je rentrerai pas dans les détails dans ce podcast que des gens vont écouter. Justement, je me retrouve là-dedans. C'est drôle, hein, parce que je me dis, OK, là, tu sais, j'ai été célibataire, comme je disais, là, pendant 9 ans. Puis là, je suis comme, OK, mais je pourrais revamper mon appartement un peu, puis je pourrais là retourner au gym, puis tu sais, je pourrais faire ces choses-là et dans l'attente, dans l'espoir de voir quelqu'un habiter cet espace-là avec moi, tu sais. Puis c'est un peu le principe du, ben pas de Marie Kondo, mais c'est un peu le principe du secret, mettons, tu sais, tu fais sortir, tu fais le vide pour que le nouveau puisse rentrer, tu sais. C'est un peu le concept, mais bon, bref.
Mais moi, je crois au fait que le fait de faire ça, même s'il y en a qui disent « Ah, il ne faut pas que tu le fasses pour les autres, il faut que tu le fasses pour toi », même si tu le faisais, mettons, pour quelqu'un d'autre, je pense que ça va te mettre dans un état, ben, ton environnement va être plus beau, tu vas être plus heureux, ça va avoir des effets insoupçonnés que tu ne vas même pas remarquer chez toi, mais que là, il y a des choses qui vont changer, que tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais c'est un changement d'énergie, un changement d'environnement. C'est sûr, ça va avoir des impacts sur toi aussi.
Oui, puis tu deviens plus réceptif aussi, là, tout simplement. Tu sais. Ah oui, c'est bon, j'aime ça. je seconde. Est-ce que tu avais d'autres points?
Ben, suite à ça, elle veut le beurre, l'argent du beurre, ça m'a rappelé une phrase que j'avais vue à un moment donné sur la fidélité. Puis, je l'ai noté pour pouvoir la dire à l'instant. L'herbe est plus verte chez le voisin. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Quand on dit, comme on a dit pour les cheveux, on a toujours ce qu'on n'a pas. Puis, eux, ils ont l'air d'en bien heureux, puis tout ça. Mais ce que j'avais lu, c'est l'herbe est verte là où on l'arrose. Puis, j'ai trouvé ça beau parce que ça veut dire... Ah oui, puis, suite à ça, j'en avais vu une autre qui disait... Souvent, quand l'herbe est trop verte, c'est qu'elle est fausse. Tout ça ensemble, c'est vraiment, tu sais, arrose ton jardin. Tu trouves qu'il n'est pas beau, puis tu as le goût d'aller ailleurs, arrose-le avant, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais tu sais, entretiens ta cour, fais le mieux que tu peux, puis des fois, c'est vrai que ça peut que ça fonctionne pour un couple, mais si tu n'as pas mis tous les efforts, tu ne le sauras pas, puis c'est comme si tu abandonnais déjà.
C'est vrai, c'est une belle façon de voir ça. Puis tu sais, avec je sais que tu parlais métaphoriquement, puis que tu sais, ça peut très bien être être quelqu'un qu'on voit, là, comme littéralement ton voisin. Mais maintenant, là, avec les médias sociaux, c'est dur de pas imaginer le gazon tellement plus vert chez le voisin parce que tout ce qui est présenté, c'est la perfection. Puis même quand c'est pas la perfection, même quand c'est un double menton ou quand c'est la volonté de montrer cette image-là, tu comprends? Je sais pas si c'est un peu... Si je me perds un peu dans ma métaphore, mais dans le sens que, quand tu montres une image qui est imparfaite, tu choisis de montrer cette imperfection-là parce que c'est l'image que tu veux montrer. T'es quand même en possession de tes moyens. C'est toi qui choisis cette mise en scène, oui, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est parce que je t'écoutais parler, puis là, je me suis mis à penser où est-ce que je vois le gazon plus vert partout. Tout le monde a un gazon tellement vert sur Instagram, ça n'a pas de maudit bon sens. Tout le monde a un corps parfait. Puis ceux qui montrent leur corps imparfait sont fucking beaux, pareil. Fait que, tu sais, même eux autres qui sont censés montrer leur corps pour déconstruire l'image qu'on se fait d'un beau corps, de la beauté, même eux sont vraiment très beaux et donc créent leur propre modèle. Fait que, tu sais, je trouve qu'on s'en sort pas du gazon, là. Le gazon plus vert chez le voisin, on s'en sort pas. Il y a comme toutes les facettes. Il y a le couple, l'idée des couples qu'on présente sur les médias sociaux, mais aussi ce qu'on voit dans la rue, là, tu sais. Mais c'est ça, ce qu'on choisit de montrer, le corps, les avoirs, la voiture, les voyages. Moi, c'est une des choses qui me rend vraiment, insécure sur les sites de rencontres, c'est que moi, mes photos, j'ai pas une maudite photo, genre dans le désert du Sahara, sur le Nil, dans les rues de Londres. Tu sais, j'ai pas de photo de même, là. J'ai l'impression que tout le monde sur Grindr ont voyagé à travers le monde, puis tu sais, j'ai pas ça, là.
Ouais.
Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas, bref. C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Mais ça me rappelle la lecture que j'ai faite de Liv Strömquist, qui était La rose la plus rouge s'épanouit. Puis il disait qu'avant, tu sais, t'étais dans ton petit village, puis t'avais la voisine, c'était ton seul choix. Fait que moins d'options que tu as, plus sûrs sont tes choix. Puis je trouve que ça va vraiment avec les jeunes qui ont plein de choix de carrière. Qu'avant, c'était comme, ben, t'es sa ferme, fait que tu vas faire ça. Ou t'avais comme quelques choix limités selon ta région géographique, selon tes compétences, tout ça, peu importe. Puis là, il y a tellement d'options que les jeunes ne savent plus quoi faire dans leur carrière parce que puis ils n'arrêtent pas de changer parce qu'on cherche toujours la meilleure option pour nous. Puis même quand on en a une qui nous satisfait, on voit les autres être hyper épanouis. Puis nous, on est comme, je suis juste bien, est-ce que c'est correct? Est-ce que je devrais essayer d'aller plus haut? Fait que c'est ça aussi avec le couple, je pense, c'est avec l'Internet, je peux sortir avec quelqu'un en Australie si je veux parce qu'il y a la facilité d'accès, communication, tout ça. Fait que c'est ça que le livre disait, c'est plus que tu as d'options, plus que tu es mélangé, plus que tu as accès à toujours être plus content, plus satisfait, plus épanoui.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, c'est vraiment difficile de rester concentré dans son jardin puis pas voir ses options. Dans le sens de...
Le monde est une option.
C'est ça.
Tu sais, ben oui. C'est drôle parce que tu me rappelles un livre que j'ai lu qui est « Du bonheur » de Frédéric Lenoir. Puis là, c'est un petit peu cynique ce que je vais dire, mais il y a une étude qui a démontré que les gens à qui on offre deux choix sont comme à un très haut pourcentage, là, genre 95, je dis n'importe quoi, j'ai pas l'étude sous les yeux, là, mais genre, mettons 95% sont heureux du choix qu'ils ont fait. Alors que si tu donnes aux gens 36 options, 36 choix, le niveau de satisfaction de leur choix baisse drastiquement parce que tu as toujours l'idée que oui, mais peut-être que si j'avais pris ça, ça aurait été meilleur, mais peut-être que ça ou peut-être que ça. Puis là, c'est là que ça devient un peu cynique, c'est que si tu es dans un village puis tu as juste une voisine, ben tu as juste un choix versus quand tu es maintenant, tu as l'option, le monde est une option, ben tu te dis que ça peut-être que tu as fait un mauvais choix, puis peut-être que l'autre choix, puis peut-être que l'autre serait mieux, tu sais.
Mm-hmm. Mais bon. Bien, c'est aussi que quand tu as deux choix, tu sais exactement ce que tu manques. Versus si tu en as 36, mais tu en as 100, mais on t'en a présenté 36, non seulement tu vas te comparer aux 35 autres choix que tu n'as pas pris. Ah, lui, j'aurais été 30 % plus heureux. Lui, 17 % lui, si. Mais en plus, tu sais qu'il y a une partie que tu ne vois pas, fait que ça te joue dans la tête un peu.
C'est vrai. Ouais. C'est un peu déprimant. Mais bon.
Ben, moi, je suis dans une relation de couple depuis, ça va faire quasiment 13 ans. Mm-hmm. Fait que, puis, c'est intéressant parce que l'autre lecture que j'ai faite après sur, je ne sais pas comment prononcer son nom, là. C'est Vivek Shraya.
Ah,
People
oui.
Change, elle disait que après 7 ans, d'un point de vue biologique, tes cellules, ils changent puis se régénèrent. Mm-hmm. Puis je pensais que c'est ça que tu allais dire avec Frédéric Lenoir. L'amour dure 7 ans.
Ça, c'est Beck BD, c'est un autre auteur. Oui.
Mais c'est 3 ans ou c'est 7 ans, je m'en souviens.
Je me souviens pas de ce que lui dit, mais je sais que le dicton populaire est différent. Fait que si c'est, je pense qu'on dit que l'amour dure 7 ans, mais lui dit 3 ans ou l'inverse.
OK. Ben, j'ai déjà lu à un moment donné, ça disait si tu es ami avec quelqu'un depuis plus que 7 ans, c'est pour la vie. Là.
Ah oui.
Puis, ben, c'est ça, ça c'est relié au. On se régénère, on change, puis après 7 ans.
La personne t'a suivi pour le cycle, donc elle évolue dans ton sens.
Ah, c'est ça, là, j'approche de 13 ans, peut-être qu'après 14 ans, ce sera plus correct. Mais... Non, mais c'est ça, puis c'est la chose que j'ai compris le plus avec les romans que je lis, puis tout ça, c'est puis avec le livre que j'ai lu, People Change, on est voué à changer, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du cycle de la vie. Là, à chaque jour, tu vieillis, fait t'avances. Donc, c'est vraiment de trouver la personne qui va le plus correspondre à... Ben, en fait, ils disent qu'il faut que tu te choisisses à tous les jours. Puis c'est un peu vrai. Dans le sens, si là, tu changes les paramètres, comme on a parlé tout à l'heure, est-ce que ça te convient encore? Est-ce que... C'est ça. C'est toujours essayer de se choisir à tous les jours. Puis essayer d'être satisfait puis d'entretenir ton jardin. Pour le voir fleurir.
Mais c'est très beau! J'aime ça. Ouais. Enfin, bref. Nous, on avait peur de ne pas avoir grand-chose à dire, puis là, on est à 48 minutes déjà. Est-ce que tu as d'autres points? Non, tu as terminé.
Non, c'était la dernière citation dans mes notes.
Ben, écoute, tu es vraiment beaucoup... beaucoup plus structuré que je ne le serai jamais. Mais aussi, je te remercie beaucoup, honnêtement, d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment-là avec moi parce que maintenant, en rétrospect, je me dis que tu étais la personne idéale pour partager ça avec moi, ne serait-ce que, ben, parce que tu es structuré et tout, mais ne serait-ce surtout que tu es vraiment comme l'opposé de moi dans le sens où tu as vécu la majorité de ta vie. En couple, ben en tout cas, la majorité de ta vie d'adulte, là, on s'entend, en couple, alors que je suis vraiment sur l'autre côté du spectre. Maintenant, c'est le moment où on parle de recommandations culturelles. Après tout ce dont tu as parlé jusqu'à maintenant, est-ce qu'il t'en reste?
ben moi, les deux recommandations que j'avais faites, c'est lié à l'humour.
Ah oui, allons-y.
Ça a rapport avec les blagues du livre. Tu vas voir, comprendre un peu plus mon genre du mot. Il y a l'humoriste québécois en ce moment qui fait des tournées qui s'appelle Pierre-Luc Pomerleau. Je pense que c'est Polyglotte quelque chose, le nom de son deuxième spectacle. Puis lui, je l'ai découvert lorsqu'il a présenté un prix au Gala des Oliviers il y a quelques années. Fait que vous irez taper sur Google Pierre-Luc Pomerleau Gala Olivier. Je ne sais pas c'est quoi l'année, mais lui, son gros point fort différenciateur, c'est les imitations. Tu fermes les yeux, puis tu dirais que c'est la personne qui te parle, la personne qui l'imite. Il imite Louis-José Hood, Mike Ward, Cœur de pirate. Fait que tu fermes les yeux, puis tu penses que c'est la personne qui te parle. Fait qu'il est très, très, très bon. Puis dans son spectacle, il en a fait une dizaine, douzaine, quinzaine d'imitations. Fait que c'est très, très bon.
Moi, je l'ai entendu imiter Jérémy Demé. C'était impressionnant.
oui, c'est ça. C'est... Puis autant dans le ton de voix, la tonalité, le débit que les gestes aussi. Mm-hmm. Fait qu'il est très, très bon pour ça. Puis le spectacle parlait de sujet de la vie de tous les jours. Fait que c'était très facile de s'identifier, peu importe où dans ta vie. Fait que lui, il roule en ce moment. Sinon, l'autre qui est plus accessible sur Netflix, c'est l'humoriste Taylor Tomlinson. Elle a trois shows sur Netflix. Puis je pense que ça pourrait t'intéresser parce que tu m'avais recommandé Ali Wong que j'avais aimé. Fait que je pense que Taylor pourrait t'intéresser.
Mais moi, j'en ai vu un que j'ai beaucoup aimé. C'est celui où elle parlait de sa bipolarité.
Ah!
Puis j'avais trouvé ça bien intéressant, mais je ne savais même pas qu'il y en avait deux autres. Là, je suis en retard des nouvelles. Mais oui, merci, merci. Effectivement, c'est une très jeune femme, très intéressante à écouter. Mm-hmm. Parfait, je note tout ça. Moi, j'ai... en fait, je suis en train de... C'est un... Ça fait bizarre là, de faire une recommandation d'un livre que je n'ai pas terminé, mais j'ai foi en ce projet-là. Et ça me fait plaisir de parler du livre « Toute la couleur du monde » de C.S. Richardson. Et ça, c'est une traduction de l'anglais. C'est « All the color of the world », donc « color » au singulier. « Toute la couleur du monde », donc. Et c'est un livre qui va parler d'histoire, ça va parler d'art, ça va parler d'histoire de l'art. Toutes ces trois choses-là séparées ensemble. Et c'est tous des petits chapitres dans lesquels on en apprend beaucoup sur la création des couleurs, mais aussi on va suivre un personnage qui n'est pas nommé. Ses chapitres à lui sont écrits à la deuxième personne, donc c'est quelqu'un qui raconte son histoire. Et tout ça, je trouve ça bien intriguant. Et je le recommande, même si je ne l'ai pas terminé, parce que peu importe où ça s'en va, il n'y a rien qui va me faire m'enlever le plaisir que j'ai eu à lire au moins ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et c'est très intelligent, c'est fin, c'est poétique, c'est pas drôle du tout. Donc, on est dans un autre, on est dans un autre domaine. Mais c'est vraiment un très, très, très bon livre. Et il y a des petites pistes sur où est-ce que ça s'en va, mais je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas terminé. Mais bref... Super belle écriture. Encore une fois, merci Kim d'avoir été là.
J'avais une question concernant ta recommandation parce qu'on avait déjà parlé, toi et moi, des livres pratiques, des livres philosophiques non-fiction qui essayent d'intégrer la fiction. Mm-hmm. Fait que, comme réponse rapide, vu que tu as dit qu'il y a un narrateur, c'est écrit au-dessus, tu dirais que ça s'éloigne des titres qui ont...
Oui, c'est ça. C'est complètement autre chose dans le sens que la fiction, c'est une fiction. Quand on va parler du personnage qu'on va suivre, je pense, de la naissance à sa vie adulte, et aussi c'est historique un peu, là, j'ai oublié de le dire, mais ça, on va assister à la Première Guerre mondiale et je pense à la Deuxième aussi. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de ce personnage-là, c'est pas dans le but de donner de l'information ou c'est pas dans le but de faire infléchir. C'est vraiment dans le but de raconter l'histoire de ce personnage-là. Et entre ça, il y a des chapitres où on nous parle de la création de couleurs et aussi d'œuvres d'art. Là, moi, à plusieurs reprises, j'ai arrêté de lire pour aller chercher les œuvres d'art là, sur mon téléphone parce que ça ne me disait rien, ces peintures-là, puis je voulais voir. Puis il en parle vraiment très bien. Il donne vraiment envie d'explorer les œuvres d'art. Et c'est ça. Donc, pour moi, même si tu as raison, généralement, c'est quelque chose qui m'énerve là, d'incorporer soit de l'information ou des trucs dans un roman. Là, même si c'est dans le même roman, les deux éléments sont séparés. Fait que ça me plaît.
Alors, mais ça cohabite bien, c'est ça ma question?
Ça cohabite bien, okay. Oui, parce que c'est on va parler de la création de d'une certaine boîte de crayons de couleur. On va parler de la création d'une boîte de crayons de couleur, puis là, éventuellement, le personnage va se retrouver avec cette boîte-là, puis elle va être importante pour lui. Donc, l'information qu'on a reçue va servir à l'histoire, mais c'est lié, c'est ça, puis c'est pas dérangeant, là, puis c'est pas genre dans l'histoire, à un moment donné, il y a un personnage qui s'arrête puis dire « Le savais-tu que cette, tu sais, genre, c'est pas comme ça, là, ça va bien ensemble. » En fait, tu me fais réaliser qu'effectivement, c'est la façon de faire tout ce procédé-là, c'est la façon de le réussir, selon moi, c'est vraiment de cette façon-là, c'est très intéressant.
Ah ben, tu m'intrigues.
Puis c'est un tout petit livre, là. Je pense qu'il y a comme moins de 200 pages, puis les chapitres font une page ou moins, fait que, tu sais, c'est vraiment des petites perles, soit narratives, soit d'informations, donc ça se prend bien, puis c'est un livre qui va se lire quand même lentement, parce que tu vas prendre une petite bulle là, d'information, puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis jusqu'à maintenant. Là, je prends une petite bulle d'information, puis je la savoure un peu, puis je regarde le ciel, puis je me dis que c'est donc bien beau la vie. Puis après ça, je retourne dans le livre. Ouais, c'est un peu ça.
Une bonne lecture de chevet.
Oui, absolument. Pour prendre son temps. Et donc, ben, merci beaucoup, Kim, d'avoir été là. Et je veux juste vous rappeler que pour le mois d'avril, on va lire Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et donc, ben, on va s'en parler d'ici là. Et peut-être allons-nous essayer d'appliquer les quatre accords Toltec à nos vies. Qui sait? On se retrouve très bientôt pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
Bye-bye.